La sagesse n'est pas que pour l'été, la sagesse c'est pour tous les jours. Nous disons justement que la sagesse c'est cette aptitude à faire des bons choix dans ce monde que Dieu a créé, des bons choix qui s'accordent avec Dieu et à la réalité de sa présence, de son éternité. Et jusque-là, nous avons regardé plusieurs thèmes, la colère, la langue, le contentement. Et ce matin, un autre trait qui revient souvent dans les proverbes, qui était déjà évoqué dans cette première partie du culte, et que vous allez voir maintenant dans les versets. Donc je vais vous lire quelques proverbes, voyez si vous discernez quel trait revient souvent. Alors tous les versets viennent de Proverbes chapitre 20. Mais ce seraient plusieurs versets choisis. Donc d'abord le verset 6. Proverbes 26, « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Le roi, assis sur le trône de la justice, dissipe tout mal par son regard. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché ? Deux sortes de poids, deux sortes d'effets sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. » Et un peu plus tard, verset 11, « L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. » Verset 17, « Le pain du mensonge est doux à l'homme, mais plus tard, sa bouche est comme remplie de gravier. » Verset 21, « Une possession trop vite acquise au départ ne sera pas bénie à la fin. » Verset 22, « Je ne dis pas, je rendrai le mal, espère en l'Éternel, il te délivrera. » Et encore, l'Éternel a en horreur deux sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Et enfin, je mets verset 27, l'Esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être. La qualité qui revient dans la plupart de ces versets, je dirais, c'est l'intégrité, la droiture, l'honnêteté, ou le besoin d'être aussi sondé par l'Éternel. L'honnêteté est liée à la sagesse parce que c'est ce trait de caractère qui va nous aider dans la prise de décision. Justement, un autre proverbe dit « L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours, les perfides causent leur ruine. » L'intégrité des hommes droits les dirige. Donc c'est un principe qui nous dirige dans la vie, qui nous aide à prendre des choix. Parfois, on se demande ce qu'il convient de faire dans telle ou telle situation et on se sent un peu dans le brouillard parce qu'il y a plusieurs, on ne sait pas ce qu'il convient de faire. Mais souvent, on voit plus clair lorsqu'on se demande, et finalement, quelle est la démarche honnête? Quelle est la démarche intègre? Quelle est la démarche juste? Même si je ne sais pas tout, même si je ne maîtrise pas tout, même si je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, quelle est la démarche honnête? C'est ce qui a même donné un proverbe en français, l'honnêteté est la meilleure politique. L'honnêteté est la meilleure politique. Mais alors, est-ce vrai ça? Quelqu'un a commenté ce proverbe en disant, justement, en politique, l'honnêteté, c'est du suicide professionnel. Alors, est-ce que l'honnêteté, c'est la meilleure politique pour notre vie? Et ce qui nous amène à la particularité de cette vertu, c'est qu'elle n'est pas toujours pratique et rentable dans l'immédiat. Souvent, les proverbes, vous les mettez en pratique et la vie ira immédiatement mieux pour vous. Mais ce matin, je ne peux pas vous dire vraiment, si tu fais ça, ta vie sera meilleure. On a vu plusieurs personnages dans les proverbes. Il y a le colérique, il y a le paresseux, il y a l'ivrogne, il y a le dépensier, il y a le calomniateur. Si ces personnes-là changent de comportement, ils vont voir des améliorations rapidement dans leur vie, dans leur entourage. Le colérique, le paresseux, l'ivrogne, le dépensier, le calomniateur. Mais le malhonnête, celui qui a les balances fausses, celui qui trafique, celui qui magouille, celui qui ne dit pas la vérité toujours, lui, s'il change de comportement, il risque de perdre du confort, il risque de perdre de l'argent. Mais j'aimerais vous dire ce matin, c'est quand même la sagesse de marcher ainsi. Ce mois-ci, le journal scientifique, assez illustre journal dans le monde de la science, qui s'appelle d'ailleurs Science, ce journal, a publié un travail de recherche sur l'honnêteté des gens. Alors une équipe de chercheurs suisses sont partis avec 17 000 portefeuilles, dans 355 villes différentes, 40 pays différents du monde, notamment les grandes villes de ces différents pays. Et dans ces portefeuilles, ils mettaient différentes sommes d'argent, parfois une clé, et les coordonnées du propriétaire. Et puis, ils ont perdu, entre guillemets, ces portefeuilles dans les lieux publics, où souvent, ils amenaient un portefeuille au guichet en disant, j'ai trouvé ça, quelqu'un a dû le perdre, je vous le confie. Alors la question, qu'est-ce qui se passera avec tous ces portefeuilles perdus? C'était une recherche sur l'honnêteté des gens. Parce que c'est aussi anonyme, si on ne rend pas le portefeuille, personne ne saura. Alors eux, c'était plutôt rassurés, moi j'étais moins rassuré. Ils ont dit, bon, globalement, dans tous ces pays, ça revient à 50%. 50% pour eux, c'était plutôt bien. Je dirais qu'on a du progrès à faire dans ce monde. Mais surtout, ils ont été étonnés de voir que plus il y avait de l'argent dans le portefeuille, plus il y avait de chances qu'elle soit rendue. Et ça, ça les a étonnés parce qu'ils ont dit, d'un point de vue purement scientifique, d'un point de vue purement rationnel, il n'y a pas de raison à agir de manière honnête dans ce cas-là. Parce que finalement, effectivement, si nous ne sommes que des animaux évolués qui cherchent leur intérêt, leur survie, pourquoi agir de manière honnête et rendre l'argent? La logique serait au moins garder l'argent et rendre le portefeuille. Et donc, ils étaient étonnés plutôt de voir qu'il y a quelque chose qui pousse quand même les gens à être honnêtes. Leur conclusion, c'était que c'est quand même égoïste parce que les gens ne veulent pas se voir comme voleurs et donc ils agissent de manière égoïste. Mais je me demande s'il y a quand même la conscience de l'homme créée à l'image de Dieu qui portait à agir de manière honnête. En tout cas, c'est la sagesse selon les proverbes. Encore dans les infos récemment, un homme a reçu, vous avez peut-être vu ça cette semaine, un homme a reçu un virement bancaire sur son compte par erreur. Et le montant était considérable, 117 000 euros. Pardon, 177 000 euros. C'est beaucoup. Qui arrive sur ton compte comme ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout liquidé, il a disparu. Eh bien, pourquoi pas, hein? Mais peut-être le verset 21 va lui rattraper. Une possession promptement acquise dès l'origine ne sera pas bénie quand viendra la fin. Maintenant, il y a un mandat d'arrêt, il risque la prison et tout ça. Mais il est heureusement, dans ce monde, les gens n'agissent pas que comme ça. Vous ne le ferez pas, certainement. J'ai lu une autre histoire récemment dans mes lectures estivales. Dans ce livre, vous pouvez changer. Il s'agit d'un certain homme qui s'appelle Dirk Williams. C'est un Hollandais. C'est un des premiers baptistes. Donc, ça m'a interpellé aussi. Et c'est en 1539. Donc, ça remonte un peu. Mais lui, il a été emprisonné par sa foi. Notamment, il croyait comme nous que l'on devient chrétien non pas par un baptême de bébé, mais en plaçant sa foi personnellement en Jésus-Christ. Ce qui me semble déjà une démarche plus intègre et honnête en soi. Mais que l'on devient chrétien par un choix personnel. Donc, il croyait ça, mais à l'époque, ce n'était pas autorisé. Donc, il s'est trouvé en prison. Mais dans cette prison, il a réussi à s'échapper. Comme dans les films, avec des draps noués par la fenêtre, tout ça. Et c'était la course, une course pour s'échapper. Et donc, il y avait un garde de prison qui s'est mis rapidement à sa poursuite et qui le pourchassait. Et dans sa fuite, il a traversé un lac gelé. Et à cause de sa régime en prison, lui, il a réussi à traverser le lac. Mais le garde qui le suivait, qui était un peu plus costaud peut-être, lui, en traversant ce lac gelé, le lac s'est fendu et il s'est retrouvé dans l'eau glacée. Et il s'est mis à crier au secours. Eh bien, cet homme, Dirk Williams, immédiatement, il a fait demi-tour. Il est allé secourir ce garde de prison. Il lui a sauvé la vie, il a sorti de l'eau. Et le garde voulait le libérer, mais entre-temps, d'autres sont arrivés, notamment le maire du village et puis tous les autres gardes. Et il a été capturé, remis en prison, et peu après, il est mort martyr pour sa foi. Ha! Est-ce que l'honnêteté remporte toujours? Est-ce que c'est toujours la meilleure politique? D'où vient une telle conduite? D'où vient un tel caractère? Ce verset 21 était comme dans ses tripes, « Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel, il te délivrera. » Ça, c'était le caractère de cet homme. Et ce matin, nous voulons aussi rechercher ça. Nous voulons encourager, célébrer cette qualité, cette intégrité, cette droiture de caractère. Et même si elle nous demande parfois des sacrifices, même si elle n'est pas toujours rentable dans les médias, même si elle demande du courage, elle porte des fruits dans les générations à venir. Voilà, on peut être reconnaissant pour les hommes comme Dirk et tout l'héritage baptiste de. Cette intégrité, cette honnêteté est nécessaire pour une société. Il n'y a aucune société au monde qui célèbre la corruption. Beaucoup de sociétés sont très corrompues, mais tout le monde sait qu'il faut viser l'intégrité et l'honnêteté pour fonctionner. Et surtout, cette honnêteté reflète le caractère de Dieu qui, lui-même, est intègre et juste. Alors ce matin, voyons un peu à travers différents proverbes ici, que c'est sage d'être fidèle dans ses engagements, c'est sage d'être honnête dans les affaires, c'est sage d'être intègre dans sa conduite, et c'est sage d'être transparent avec Dieu. Voyons tout d'abord, c'est sage d'être fidèle dans ses engagements. C'est le premier verset que nous avons lu, verset 6. « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Un homme fidèle ici, il s'agit d'un homme fiable, un homme de confiance, quelqu'un qui garde sa parole. C'est-à-dire, c'est le contraire de quelqu'un qui juste proclame, qui dit « Oui, moi je suis bon, moi, je serai là, oui, c'est bon pour moi. » Mais la question c'est, est-ce qu'on garde, on tient parole, un homme fidèle, qui le trouvera ? Et d'après ce proverbe, ce genre de personne est plutôt rare dans ce monde. Puisqu'on pose la question, un homme fidèle, qui le trouvera ? Mais c'est justement ce qui doit nous motiver à l'être. Bien sûr, j'ai pensé à une application directe au mariage. Beaucoup proclament leur bonté, d'ailleurs le mot bonté est parfois traduit amour. Beaucoup proclament leur amour, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? C'est facile de proclamer sa bonté et son amour le jour du mariage, mais ce qui compte, c'est la fidélité dans le temps. D'ailleurs, je crois que ça fait même partie de l'honnêteté, de l'intégrité. Quand on pense au vœu du mariage, on a promis de rester fidèle. Et Jacques répète dans le Nouveau Testament que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça fait partie de l'honnêteté. Mais bien sûr, le mariage, ce n'est qu'un domaine de la vie où cette honnêteté et cette fidélité est nécessaire. Combien cette qualité est utile pour le travail ? Pour l'Église, quand il s'agit de s'impliquer dans un service, de la participation financière, dans les offrandes, d'ailleurs, toutes nos relations humaines. Oui, on a besoin des personnes fidèles sur qui on peut compter. Je lisais encore un livre récemment qui décrivait un peu des milieux très pauvres. C'était aux États-Unis, mais vraiment la pauvreté comme j'ai jamais vu en France, et donc, mais certaines personnes s'en sortent. Mais il racontait un peu l'histoire. Il lui était embauché pendant un été dans une usine de carrelage. Il dit, bon, c'est pas un travail glorieux, mais on pouvait gagner bien sa vie. Mais il a vu un peu ses collègues autour de lui. Notamment, un collègue l'a impressionné. Le patron l'avait embauché par pitié. Il avait 19 ans. Il avait une copine enceinte. C'était déjà mal parti dans la vie. Donc, le patron a voulu l'aider. Alors, il l'a embauché. Il était étonné. Il ratait le travail au moins un jour sur trois. Il venait pas. Tous les jours, il était systématiquement en retard au travail. Il partait au WC trois ou quatre fois dans la journée pendant une heure. Et donc, à force, le patron a été indulgent avec lui, mais enfin, il a licencié. Et là, il a dit, oh là là, la société est contre moi, c'est injuste. Voilà. Donc, voilà, les enfants, si les enfants sont partis, mais les jeunes, si les parents vous inculquent des principes d'être fidèles, de tenir un engagement, c'est précieux pour la vie, ça va vous servir toute la vie. J'aime bien ce que Jonathan Edwards a dit à l'âge de 20 ans. Edwards était un théologien évangélique, un des plus grands. Mais à 20 ans, il a pris la résolution, il dit « Je suis résolu d'être rigoureusement et fermement fidèle et digne de confiance pour que ce qu'on lit en Proverbe 20, verset 6, « Un homme fidèle qui le trouvera » ne soit pas partiellement accompli en moi. » C'est une longue citation, je relis. « Je résolus d'être rigoureusement et fermement fidèle et digne de confiance pour que ce qu'on lit en Proverbe 20, verset 6, « Un homme fidèle qui le trouvera » ne soit pas partiellement accompli en moi. » C'est-à-dire, lui, il dit, je ne veux pas être le point d'interrogation, je ne veux pas que le point d'interrogation s'applique à moi. Un homme fidèle qui le trouvera. Je veux pouvoir dire, ouais, moi, on peut me trouver. Donc, c'est sage d'être fidèle dans ses engagements. C'est aussi sage d'être honnête dans les affaires. Ce qui revient ici, notamment verset 10. Deux sortes de poids, deux sortes d'effets sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. La même idée est répétée en verset 23. L'Éternel en a horreur de sortes de poids. Et la balance fausse n'est pas une bonne chose. Alors vous savez qu'à l'époque, les transactions commerciales de l'époque étaient basées sur les poids et les mesures. Nous, on a des billets de 5 euros, 10 euros, 20 euros, 100 euros, mais eux, ils ne fonctionnaient pas avec des billets d'argent. Et l'argent était en fonction du poids. Donc, on pouvait mesurer pour savoir combien payer. Donc, les paiements se faisaient avec des mesures et des poids. Alors, mais justement, si on avait deux sortes de poids, deux sortes de mesures, c'est qu'il y avait quelque chose de louche dans tout ça. De sorte, peut-être un était plus lourd ou plus léger en fonction si c'était un achat ou une vente, mais c'est une manière de toucher un gain malhonnête, d'avoir ces deux sortes de poids. Et donc, il me semble que ce verset, pour nous aujourd'hui, c'est vrai, on ne fonctionne plus avec des balances et des mesures, mais ce verset englobe, on pourrait dire, toutes les pratiques commerciales qui sont frauduleuses ou manipulatrices ou mensongères. Le verset 17 l'appelle le pain du mensonge est doux à l'homme, plus tard sa bouche est remplie de gravier. Le pain du mensonge, c'est ce qu'on peut gagner. On parle de gagner son pain, c'est ce qu'on peut gagner, mais par mensonge. Et là, ce proverbe dénonce cette malhonnêteté dans les affaires financières. Et je me dis qu'il y a certainement des applications de ce proverbe dans tous les métiers et à tous les niveaux de l'économie, de la société. Je ne sais pas, dans votre travail, dans votre contexte exactement, où vous voyez et comment vous vivez. Vous voyez autour de vous parfois des pratiques qui relèvent de ces deux poids de mesure. Mais ça s'applique au patronat, ça s'applique aussi aux employés, ça s'applique au gouvernement et aux citoyens. Le mécano, le garagiste et le banquier, tous sont concernés par cette honnêteté. Et ce n'est pas parce qu'une pratique est légale qu'elle n'est pas malhonnête ou injuste. Il y a des publicités mensongères ou des taux de crédit qui en font la proie des pauvres. Et vous voyez le langage ici très fort, abomination, horreur. L'Éternel tient ces choses en abomination, en horreur. Pourquoi un langage si fort? Ben certainement, c'est souvent ces pratiques exploitent notamment les pauvres, les misérables, les impuissants, ceux qui sont près du cœur de Dieu, ceux que Dieu aime sauver et bénir. Ces parties de la société qui sont souvent malmenées, mais ces pratiques les touchent souvent. Et c'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament d'ailleurs, Jésus, qui s'est rarement mis en colère. Nous avons étudié la colère récemment. Jésus s'est rarement mis en colère à travers les évangiles, mais il l'a fait une fois. Et c'était notamment devant ses vendeurs et ses changeurs de monnaie dans le temple que lui-même a traité de voleur, caverne de voleur. Donc certainement, il y avait des pratiques frauduleuses dans la manière qu'il changeait la monnaie et qu'il vendait ses sacrifices pour que Jésus les traite ainsi. Donc là encore, deux sortes de poids, deux sortes de mesures, c'est ce qui a un aspect qui a mis Jésus en colère face à tout ça. Alors je sais, vivre honnêtement dans ces domaines est souvent difficile, sachant que les pratiques pas nettes sont très répandues dans presque tous les métiers, tous les endroits. Les contrats qu'on va signer, qui derrière, il y a des clauses cachées. On le reconnaît, il y a souvent un gain immédiat. On va remporter un contrat ou on va le perdre. Si on est honnête, on a peur de perdre le travail ou perdre le gain financier. Comment faire? Et peut-être ce verset 17 peut nous aider. Le pain du mensonge est doux à l'homme, mais plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Cet après-midi, après le culte, vous allez manger, vous allez prendre l'apéritif peut-être. Je vous propose ça en apéritif, vous servez, et un petit bol de gravier, et vous le croquez, mastiquez un peu, et vous n'allez pas oublier cette expérience. Et tout au long de cette semaine qui va venir, vous allez dire, voilà, peut-être, si je peux être honnête, c'est mieux que manger du gravier. Donc, c'est sage d'être honnête dans les affaires. C'est sage aussi d'être intègre dans sa conduite. Verset 7, le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Le juste marche dans son intégrité. Le mot hébreu a le même sens qu'en français. C'est quelque chose d'intègre, c'est quelque chose d'entier, de complet. On parle de l'intégral ou quelque chose d'intègre. C'est l'ensemble, c'est le tout. Donc, une conduite intègre, c'est le contraire d'une vie double. On est un ensemble, on est tout, on est authentique. C'est le contraire d'une vie cloisonnée. Je me comporte d'une manière avec mon collègue, une manière avec mes frères de l'Église, une manière quand je suis tout seul. Ça, ce n'est pas un ensemble. C'est séparé, c'est cloisonné. Alors qu'on veut une vie intégrée, c'est-à-dire où on est le même. Quand on est tout seul, on est le même devant différents groupes de personnes, les mêmes convictions. Une vie intègre, où on dit la vérité, on est dans les petites choses comme les grandes choses. Il me semble que c'est une des meilleures choses que nous pouvons faire aussi pour nos enfants. Le verset dit « Heureux ses enfants après lui ». Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Une foi entière, une foi intègre, une foi non hypocrite, une foi au quotidien, est certainement le facteur le plus déterminant pour transmettre la foi à nos enfants, en dehors de, la grâce souveraine de Dieu qui aussi doit agir dans leur cœur. Mais s'il y a un discours le dimanche et un autre à la maison, une manière de se comporter devant les autres et une autre en privé, on va perdre nos enfants, ils vont être malheureux. Mais marcher dans l'intégrité, au quotidien, ça, les enfants peuvent voir et aussi hériter notre foi. D'ailleurs, en parlant de l'éducation des enfants, regardez verset 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Un proverbe intéressant. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Et ce verset encourage les parents à viser le caractère tôt, il me semble, parce que certaines habitudes et manières vont être marquantes pour toute une vie. Bien sûr, on est dans les proverbes, il ne s'agit pas des promesses immuables. La grâce de Dieu peut intervenir. On connaît beaucoup d'histoires où la grâce de Dieu, malgré une mauvaise éducation, malgré un enfant qui part dans la délinquance, Dieu le rattrape dans sa grâce, comme il a fait maintes reprises. Mais il y a une vérité ici. Que les habitudes, les pratiques que nous allons adopter jeunes risquent de nous marquer pour toute une vie. Il y a peut-être une manière de discipliner ou d'éduquer nos enfants qui inculque une certaine hypocrisie ou une rébellion. Une conduite qui n'est pas pure et droite. Et en tant que parents, nous voulons les encourager autrement. Bien sûr, l'intégrité n'est pas d'être exagérément scrupuleux ou plus royaliste que le roi. Dans le Nouveau Testament, on trouve ces pharisiens, ils étaient quelque part fiers d'une certaine intégrité parce qu'ils donnaient la dîme même des épices et tout ça. Mais ils n'avaient aucun souci à faire un procès illégal ou pratiquer deux poids deux mesures avec Jésus. Donc, l'intégrité commence dans le cœur, ce caractère. Je reviens à notre ami Dirk Williams, qui a secouru la garde. Lui, il était intègre, il était honnête, mais il n'a pas hésité à échapper de sa prison. Et même avant ça, il n'a pas obéi aux autorités civiles qui disaient « la foi, c'est interdit ». Donc, il a su aussi, parfois, une désobéissance civile peuvent faire partie de l'intégrité et l'honnêteté comme lui, mais il a toujours gardé son cœur intègre, rempli d'amour et de fidélité envers les autres. Donc c'est sage d'être fidèle dans ses engagements, c'est sage d'être honnête dans les affaires, c'est sage d'être intègre dans sa conduite. Mais je vous dis tout ça et tout le monde est d'accord, oui, il faut être honnête. C'est mieux d'être honnête, c'est mieux pour une culture, une société d'être honnête, mais quand même, malgré le fait qu'on dise... Si on demande, est-ce que vous voudrez qu'on vous rende votre portefeuille si c'est perdu, tout le monde va dire oui. Mais 50% ne vont pas le faire. Il nous faut plus que ça pour devenir sages comme les proverbes veulent. Et c'est pour ça que je termine avec ce quatrième point. Il faut être transparent avec Dieu. Et ce verset 27, intéressant, l'esprit ou le souffle de l'homme, selon la traduction, je pense qu'il parle un peu de la conscience ou... Le regard de Dieu, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être. On a cette conscience en nous, ce souffle que Dieu a créé. C'est une lampe de l'Éternel, il explore le plus profond de l'être. Et si on veut être honnête dans la vie, dans les affaires, dans nos engagements, ça commence par être honnête et transparent avec Dieu, son regard. Et ce matin, il va falloir encore explorer le plus profond de l'être, que sa parole et sa personne, sa lumière le fasse. Et quand on explore le plus profond de l'être, de notre être, qu'est-ce qu'on trouve? Le verset 9 peut nous aider, je pense. « Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché ?» C'est tourné en question que finalement, personne ne peut dire oui. Moi, oui. Qui peut dire ça ce matin? J'ai jamais manqué aucune de ces choses. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Au plus profond de notre être, quand cette conscience, cette lampe de l'Éternel éclaire, on sait qu'il y a des choses que nous voulons cacher, que nous ne voulons pas faire apparaître aux autres. Alors, quelle est notre solution pour gérer ces lacunes au plus profond de notre être? Pour gérer ces choses que nous n'aimons pas, que nous voulons cacher au plus profond de notre être. Quelle est notre solution? Ah ben, c'est être malhonnête, c'est pas dire, pas mentir, d'accord, mais c'est pas tout à fait dire la vérité. C'est exagérer un peu, c'est tricher, bon, pas tout à fait tricher, mais oui, c'est là, c'est la limite. Vous voyez, les mensonges et les corruptions viennent parce que nous essayons de nous protéger, de nous sauver en quelque sorte, de nous justifier, de purifier notre propre cœur. La question, qui peut dire « j'ai purifié mon cœur » On ne peut pas vraiment, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais nous essayons, en affichant autre chose, ou en disant autre chose. Par exemple, on va proclamer, exagérer sa bonté, comme dit le proverbe, pour faire croire qu'on est des gens de bien. Ou bien des pratiques frauduleuses, c'est deux poids deux mesures, on va avoir recours parce qu'on croit que l'argent peut nous purifier, nous protéger, nous donner une meilleure image. Est-ce que ça vous arrive parfois de... Voilà, il faut prendre une douche parce que vous êtes sale, mais vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps. Alors vite, tu rechanges de vêtements, un peu de parfum, un peu de maquillage et c'est parti. Vous êtes présentable, mais vous n'êtes pas propre. Soyons honnêtes, on l'a fait. Vous êtes présentable, mais vous n'êtes pas propre. Et au niveau moral et spirituel, tout ce dont nous parlons ce matin, ce que font les gens. À l'intérieur, oui, on a des lacunes, on n'est pas propre. Mais j'affiche autre chose. J'agis autrement pour me racheter, pour me purifier, pour avoir plus d'argent, pour me faire une réussite que, à l'intérieur, je sais que je n'ai pas. Et c'est ça qui est passage. Ça, c'est passage. Parce que ça va vous conduire à des pratiques qui sont néfastes pour vous-même, pour votre entourage, votre famille et votre société. Et c'est passage. La solution, selon la Bible, c'est ne plus essayer de se cacher, pas essayer d'être présentable, mais pas propre, mais d'être transparent avec Dieu et de demander à lui de nous purifier, de nous changer. De toute façon, je dis ce matin, il faut être transparent avec Dieu, mais de toute façon, Dieu voit tout. On peut rien cacher de lui. Il voit tous nos efforts d'ordre un peu la vérité. Ça, il voit. Mais voici le comble que je peux vous annoncer ce matin. Dieu voit tout. Il explore le plus profond de l'être avec sa lampe, sa lumière. Il voit tout. Et il vous aime. Il nous aime quand même, malgré nos fautes dans ce domaine et dans bien d'autres. Et c'est ça qui nous libère. On peut être transparent avec Dieu. Il voit nos problèmes, nos impuretés, ce manque de netteté, d'intégrité. Ça, il le voit. Mais il nous aime. Et il nous envoie son salut, qui par l'argent, qui par le regard des autres, il nous restaure. Et lorsqu'on est transparent avec Dieu, lorsqu'on sait que Dieu sait tout en nous et qu'il est en train de nous transformer et qu'il nous agrée, ben on peut être transparent avec les autres. On peut faire les sacrifices nécessaires quand ça coûte un peu d'être honnête. Parce qu'on a la faveur et le regard de Dieu. voyez, le livre des Proverbes laisse quelques questions en suspens. On se les posait ce matin. Un homme fidèle, qui le trouvera? Et si on est honnête, aucun de nous n'a été parfaitement fidèle. Qui dira « Je suis net de tout péché » ? Personne. Un homme fidèle, qui le trouvera ? Personne. Qui est net de tout péché ? Personne. Mais un jour, annonce la Bible, quelqu'un est venu. Jésus est venu, le Fils de Dieu, Dieu qui s'incarne. Et lui, il a pu répondre affirmativement à ces questions, il a montré. Un homme fidèle, qui le trouvera ? On le trouve en Jésus-Christ. Qui est net de tout péché ? On le trouve en Jésus. Lui, il a tenu parole. Lui, il était honnête, même au prix de sa vie. Il a été sage face à des accusations, cette interrogation injuste. Il a su répondre de différentes manières, mais toujours honnêtement. 1 Pierre 2, 22 dit justement, dans sa bouche, il ne s'est point trouvé de fraude. Il a été honnête au prix de sa vie. Jésus a fait plus que proclamer sa bonté et son amour. Oui, je vous aime. Il a fait bien plus que ça. Il a prouvé à la croix, il a donné sa vie. Et lorsque nous connaissons ce Jésus, lorsque nous venons à le Nouveau Testament appelle ça marcher dans la lumière, venir à la lumière, lorsque le regard de Jésus, la parole de Jésus pénètre notre cœur, l'éclaire, jusqu'au plus profond de nos entrailles, de notre être, et que nous pouvons saisir son amour et son salut, son pardon, eh bien, après ça, vous allez voir, ça va vous libérer pour marcher dans la vérité, dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Alors que Dieu nous vienne en aide et que nous adoptions cette voie sage de l'intégrité, de l'honnêteté, tous les jours de la semaine et tous les jours de notre vie. Nous prions pour terminer. Seigneur, ce matin, nous voulons avoir l'honnêteté de dire nous avons besoin d'un sauveur, nous avons besoin d'un salut. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes en jouant avec les apparences, en essayant d'acquérir plus de richesses d'autres gens, souvent des manières pas nettes. Ce n'est pas ça qui peut nous restaurer, nous sauver, nous rendre le bonheur. C'est que c'est toi en Jésus-Christ et nous voulons te remercier. Donc, encore ce matin, que notre démarche intègre et sincère soit de confesser nos lacunes et d'accepter la vérité que tu as prononcée dans ta parole, que Jésus est un sauveur, qu'il est venu pour nous, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Et maintenant, nous pouvons avoir une conscience nette et pure et vivre dans la lumière que tes enfants, que les chrétiens de l'EBTM soient des témoignages de Christ en tout lieu, au travail, à la famille, dans cette honnêteté, cette incrédité, intégrité, que cela suscite peut-être des regards, des questionnements chez les autres, en disant, voilà, ces chrétiens-là, ils sont différents, ils sont honnêtes, je veux être comme eux. Nous te prions de nous aider. Merci pour ce temps de culte que nous avons pu t'offrir ce matin. Accompagne-nous chaque instant, chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.